Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit à clore: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous célébrons en ce 25 mars la solennité de l'Annonciation, qui est rien moins que le mystère central de notre foi, la grande originalité qui différencie le christianisme de toutes les autres religions du monde, tout en l'inscrivant dans la ligne du judaïsme qui, en quelque sorte, lui permet d'éclore, puisque Marie, fille de Sion, enfant d'Israël, va donner naissance au Messie d'Israël, annoncé par les prophètes. Et cette fête de l'Annonciation, elle est le centre de notre foi, parce qu'elle ne fait qu'un avec la fête de Pâques. Dans la mesure où ce qui commence à l'Annonciation, c'est ce qui se continue à Pâques et, si l'on veut bien le comprendre, jusqu'à l'Ascension et même à la Pentecôte. C'est l'incarnation de Dieu. Dieu qui se fait homme. Dieu qui commence à se faire homme dans le sein de la Vierge Marie par l'annonce de l'ange et sous la puissance de l'Esprit qui prend notre chair. Dieu qui va naître parmi nous à Noël, qui va marcher sur nos routes, manger à nos tables, souffrir de notre mort, ressusciter par la puissance de ce même Esprit Saint qu'il a conçu, monter au ciel et enfin nous donner ce même Esprit Saint qui lui-même nous a donné Jésus. Cette incarnation qui vise la résurrection, qui elle-même vise le don de l'Esprit Saint, cette incarnation de Dieu qui commence aujourd'hui, frères et sœurs, elle n'a pas duré qu'un matin, elle n'a pas duré que 9 mois de grossesse, elle n'a pas duré que le matin de Noël au 25 décembre. Cette incarnation, comme l'appelait le pape Jean-Paul II, cette incarnation rédemptrice, elle a duré toute la conception, la grossesse, la naissance, la croissance de Jésus dans son humanité jusqu'à sa mort, sa résurrection, son ascension et notre Pentecôte. C'est Dieu qui, en se faisant homme, ne se fait pas simplement embryon d'une manière extraordinaire dans le sein d'une jeune fille d'Israël. C'est Dieu qui prend toute notre vie et qui, pour paraphraser saint Irénée de Lyon, apporte toute nouveauté en s'apportant lui-même. Eh bien, tout cet itinéraire que nous connaissons, dont nous ne prenons pas assez conscience qu'il a toute la longueur d'une vie, car nous le réduisons trop souvent à des moments ponctuels, au moment des fêtes liturgiques, mais toute cette incarnation qui prend toute l'épaisseur de la vie du Christ, où Dieu apprend à vivre avec les hommes, et comme le dit saint Jean Chrysostome, s'habitue à l'homme pour que l'homme s'habitue à Dieu. Eh bien, toute cette durée de l'incarnation qui se chiffre en dizaines d'années, toute cette durée de l'incarnation, nous en parlons, nous la célébrons, nous rendons grâce parce que l'Église a fait un travail immense grâce au concile, grâce au débat, grâce aux théologiens pour mettre des mots sur cette réalité. Mais ce que nous, aujourd'hui, nous appelons incarnation à partir de l'Annonciation, où nous disons et où nous répétons Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, avec Irénée, avec Athanase, ce sont des mots qui sont le fruit d'un héritage chrétien de pensée, de réflexion, de débat et de théologie. Mais n'oublions jamais, frères et sœurs, que tout cela est porté, enraciné dans ce qui est abord et avant tout l'expérience de ceux qui ont vécu avec Jésus, c'est-à-dire les apôtres. N'oublions pas que l'Église est apostolique et que ce qui nous fait proclamer les dogmes, l'Annonciation notamment, c'est d'abord l'expérience très existentielle des apôtres qui ont vécu, bu et mangé avec le Christ avant et après sa résurrection. C'est parce que ces hommes qui ont été choisis par ce rabbi galiléen ont fait à son contact une expérience de Dieu qui transcendait tout ce qu'ils avaient pu enseigner, entendre, voir autour d'eux, même dans la tradition d'Israël. C'est parce que ces hommes ont fait cette expérience de Dieu à côté et à travers cet homme Jésus de Nazareth, non seulement par ses miracles, mais aussi par son enseignement et surtout par sa personne, que nous en sommes venus à parler d'incarnation de Dieu, car l'incarnation est un mystère. Avant d'être une idée, un dogme formulé, des concepts, un vocabulaire, des paroles que l'on dit, que l'on répète, parfois en comprenant mal leur contenu, qui reste de toute façon incernable, l'incarnation, c'est d'abord une expérience. C'est l'expérience de Dieu parmi les hommes qui s'inscrit dans la droite ligne de l'expérience de Dieu au cœur d'Israël, sur la tente du désert, la nuée, le propitiatoire, l'arche, le temple de Jérusalem et Jésus de Nazareth lui-même, en qui les apôtres et les autres croyants ont reconnu une présence de Dieu dont saint Jean va nous dire, oui, le Verbe s'est fait chair, nous avons pu toucher, il a manifesté sa gloire. Et cette expérience-là, elle est indicible. Et les mots de la foi qui parlent d'incarnation de vrai homme, vrai Dieu, sont des mots qui balbutient l'expérience des apôtres. Et ce qui fait vivre l'Église, bien sûr, c'est l'affirmation des vérités de la foi. Mais beaucoup plus que les simples paroles qui servent à la dire, cette vérité de la foi, c'est d'abord l'expérience de Dieu. Une expérience de Dieu qui est absolument unique et pourtant qui est devenue universelle. Expérience de Dieu qui se retrouve dans les sacrements de l'Église et bien entendu dans l'Eucharistie, mais expérience de Dieu qui est tout entière donnée dans la puissance de l'Esprit-Saint. Et si aujourd'hui nous sommes privés de la matérialité des sacrements, nous ne sommes pas privés de la puissance de l'Esprit-Saint. Et ce même Esprit-Saint qui nous donne les sacrements comme il nous a donné Jésus, ce même Esprit-Saint, si nous lui ouvrons notre cœur, il vient en nous pour transformer nos vies en touchant notre chair et pour donner la force non seulement de croire dans cette incarnation, dans cette présence de Jésus au milieu du monde, mais la force de pouvoir
le partager les uns avec les autres, d'abord par notre parole, une parole dont la puissance investie par Dieu a une portée qui dépasse de loin ce qu'une simple parole peut faire quand elle est prononcée uniquement par des hommes. Eh bien, demandons au Seigneur de bien saisir en cette solennité de l'incarnation, de l'annonciation, que nous célébrons aujourd'hui ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions du monde, c'est-à-dire cette habitation de Dieu dans notre condition humaine, dans notre chair humaine, si fragile, si malade, si vulnérable, si mortelle, si pauvre. Cette habitation de Dieu dans notre tente si précaire qu'est notre humanité, par laquelle habitation il se fait proche de nous comme nulle part ailleurs dans aucune autre religion du monde, parce que ce n'est pas nous qui le décidons, c'est lui. Et parce qu'en se faisant ainsi proche de nous et l'un de nous, il vient véritablement épouser notre condition humaine afin que nous puissions à notre tour librement, par notre consentement et notre cœur aimant, marcher dans ses voies en marchant dans sa présence lui-même. C'est ce que nous dit le Christ, « Demeurez en moi comme moi en vous ». Eh bien, cette habitation du ciel sur la terre fait que l'éternité est déjà là, fait que même si nous mourons, nous avons déjà touché le ciel et que d'une certaine manière, par notre baptême qui fait habiter le Christ en nous, par notre baptême, qui est cette effusion de l'Esprit-Saint comme une source vive dans nos cœurs, notre mort, d'une certaine manière, est déjà derrière nous. Et que ce qu'il reste à vivre dans notre chair, nos douleurs, nos épidémies, nos conflits, nos confinements, tout cela n'est que la réalisation nécessaire à notre pleine entrée dans ce don extraordinaire d'éternité que nous avons reçu à notre baptême, parce que ce baptême lui-même, c'est l'effusion de l'Esprit-Saint qui met Dieu au milieu de l'humanité, dans notre chair mortelle. Alors, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour cette extraordinaire venue dans notre condition humaine que nous célébrons aujourd'hui, cette habitation impensable, indéchiffrable, indicible, sur laquelle nous posons les mots infirmes d'incarnation, d'échange, de vérité de la foi. Et redisons-nous toujours que ce qui fait vivre l'Église à travers et au-delà de toutes ces expressions, c'est l'expérience même de la présence de Dieu dans l'humanité de Jésus, dans cet homme galiléen, dans ces sacrements de l'Église et surtout par cet Esprit-Saint qui nous l'a donné. Eh bien, que ce même Esprit-Saint vienne habiter aujourd'hui nos cœurs, nos prières, leur donner l'efficacité de pouvoir communiquer par notre pensée, notre affection, notre amour, notre foi, notre cœur, la force de travailler inlassablement à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, les héros de notre temps particulier, sont tous ces personnels soignants, sont ces médecins, sont ces prêtres, vous l'avez vu, qui donnent leur vie pour que de plus jeunes puissent survivre à la maladie. Eh bien, demandons au Seigneur que dans la puissance de son Esprit-Saint, nos prières puissent porter dans la vie, le cœur, la chair de ceux qui soignent, de ceux qui meurent, de ceux qui soutiennent, pour que ce soit l'amour, l'amour éternel de Dieu, qui puisse déjà se faire sentir en ce monde et nous faire vibrer les uns par les autres de cette vie éternelle qui est déjà là et qui nous fait désirer le ciel et à cause de ce désir, nous fait aimer la terre où nous sommes puisqu'elle est faite pour nous conduire vers ce ciel. Qu'en cette solennité de l'incarnation, la Vierge Marie soit à nos côtés avec Saint Joseph qui a veillé sur l'enfant Jésus pour que nous puissions construire dans nos cœurs cette demeure de Dieu qui pourra, dans le monde, apporter son amour, sa grâce et sa paix. Amen.